Radio France Internationale, 13h ici à Paris, il est midi en temps universel.
RFI Midi.
C'est l'heure de votre journal, Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour, à la une, le Liban, après la guerre, nous serons dans un instant direct de Beyrouth, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'arrêt des bombardements israéliens qui ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes en deux mois. Nous entendrons aussi le témoignage d'un habitant du nord d'Israël ciblé depuis des mois par les roquettes du Hezbollah. Et puis, nous verrons le rôle de la France dans la résolution, dans l'aboutissement de ce cessez-le-feu, le rôle en particulier du président français Emmanuel Macron. À la une encore, le 8 mai, des parlementaires européens à la nouvelle Commission européenne, le Parlement de Strasbourg a validé le nouvel exécutif de l'Union européenne. Les définitions racistes du dictionnaire de l'Académie française et puis le retour des Misérables à Paris. On parle bien sûr de la Comédie française.
C'est le soulagement au Liban depuis ce matin, 4 heures depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Le soulagement de la population civile en première ligne face aux multiples bombardements de l'armée israélienne. Ces deux mois de pilonnage intensif du Liban ont tué plus de 3000 personnes, des membres du Hezbollah, mais surtout des civils. Près d'un million de personnes ont été déplacées par ces frappes israéliennes. On retrouve Laure Stéphane en direct de Beyrouth. Depuis ce matin, Laure, de très nombreux habitants retournent dans la banlieue sud de la capitale libanaise.
Oui, des habitants déplacés par le conflit reviennent chez eux depuis ce matin. Des files de voitures chargées de matelas, de valises. Certains avaient déjà tenté des retours épisodiques, comme ce jeune père de famille, mais il était reparti à cause des bombardements. Cette fois, il espère que c'est la bonne. C'est une matinée sous la pluie où on constate l'étendue des dégâts. Environ 300 immeubles ont été totalement détruits, selon les estimations du CNRS libanais. Mais la vie recommence, des magasins ont rouvert. Par intermittence, il y a des saccades de tirs, tirs de joie, tirs politiques. Des jeunes du Hezbollah sont déployés sur le terrain. Des sonos diffusent des airs de victoire. Des gens arborent le drapeau jaune du parti. Ils attribuent au combat mené dans le sud par le mouvement chiite l'obtention d'une trêve. Une trêve que tout le monde sait pourtant fragile. Il y a dans la banlieue sud une odeur de cramé, celle dégagée par les frappes israéliennes qui ont eu lieu cette nuit avant la trêve. À des carrefours près de la banlieue sud, l'armée libanaise distribue des tracts qui mettent en garde sur la présence d'engins non explosés.
Laure Stéphane, direct de Beyrouth, de l'autre côté de la frontière, maintenant dans le nord d'Israël. Les frappes du Hezbollah ont aussi provoqué des déplacements de population à une bien moindre échelle. Environ 60 000 personnes ont dû quitter leur maison. Alors que les tirs du Hezbollah depuis le 7 octobre 2023 ont tué 130 Israéliens. Voici le témoignage d'un habitant de Kiryat Shmona. C'est à la frontière avec le Liban. C'est une ville désertée de la quasi-totalité de ses habitants. Cet habitant, il s'appelle Mickey et c'est un son bien plus doux que celui des roquettes du Hezbollah qu'il pouvait entendre ce matin.
C'est calme ici. On peut entendre les oiseaux. C'est très surprenant. On va profiter aujourd'hui, demain et ces prochains jours de ce silence, ce calme. Ce sera l'occasion de sortir et de se promener dans la région, ce qui n'était plus possible depuis un an. Et nous espérons que les prochaines semaines resteront calmes. Je n'y crois pas vraiment, mais je l'espère.
Témoignage recueilli par Sami Boukhalifa.
Et l'annonce de cette trêve, Florent, suscite depuis hier soir de très nombreuses réactions.
Et d'abord au Liban, avec les espoirs du Premier ministre pour que s'écrive une nouvelle page pour son pays, avec l'élection enfin d'un président. Najib Mikati annonce aussi le renforcement du déploiement de l'armée libanaise dans le sud du pays, comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu qui exige le départ de la région et du Hezbollah et de l'armée israélienne. À Gaza, le Hamas se dit prêt lui aussi à une trêve alors que les frappes israéliennes ont encore fait 15 morts ce matin. Certaines victimes se trouvaient dans une école qui abrite des civils déplacés selon la défense civile palestinienne. L'Arabie Saoudite, elle vient de saluer tous les efforts internationaux pour aboutir à ce cessez-le-feu, les efforts des États-Unis et de la France, comme l'a rappelé ce matin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
pourrait dire que cet accord, c'est le fruit d'un travail d'arrache-pied qui a été mené depuis de longs mois et que c'est un succès pour la diplomatie française et que nous pouvons en être fiers.
La fierté du chef de la diplomatie française ce matin sur France Info. Le président français Emmanuel Macron s'est même fendu d'un message enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux. C'est bien la France avec les États-Unis qui ont permis d'annoncer ce cessez-le-feu obtenu, Valérie Gasse, malgré les tensions entre la France et Israël.
Oui, depuis des semaines, les relations extrêmement tendues entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou donnaient l'impression d'un point de non-retour entre les deux dirigeants. Aux déclarations du président français, par exemple, quand il avait appelé à cesser de livrer des armes à l'État hébreu, le premier ministre israélien avait répondu par des invectives. Dans les cercles diplomatiques, on reconnaît que les désaccords avec Israël avaient généré des tensions. Benjamin Netanyahou voulait même exclure la France des discussions sur le cessez-le-feu, mais les autorités libanaises ont insisté pour que Paris reste dans le jeu du processus de négociation engagé depuis des mois avec les États-Unis, dans lequel la France a l'avantage de pouvoir parler au Hezbollah.
Et ces derniers jours, Emmanuel Macron s'est donc entretenu avec toutes les parties impliquées.
Oui, et Benjamin Netanyahou notamment, qui a interrogé le président français sur le sujet très sensible pour lui actuellement, l'application du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis récemment à son encontre. La France respecte ses obligations, mais un juge peut décider d'accorder l'immunité à un chef d'État. Une réponse qui a fait baisser la tension avec Israël. La France endosse donc avec les États-Unis le rôle de parrain de l'accord sur le Liban. Joe Biden a même remercié Emmanuel Macron pour son implication. Le chef de l'État, auquel on reprochait son message brouillé sur le Proche-Orient, sort recrédibilisé de cette séquence avant une visite d'État en Arabie Saoudite la semaine prochaine, durant laquelle il aura l'occasion d'évoquer l'autre conflit dans la région, celui de Gaza.
Valérie Gasse du service politique, la chef du service politique de RFI.
Et on reviendra dans quelques minutes sur ce cessez-le-feu entré en vigueur cette nuit avec notre invité Nadim Houri, directeur exécutif du think tank Arab Reform Initiative et avocat spécialisé dans les droits humains.
Ursula von der Leyen, reconduite à la tête de la Commission européenne. C'est officiel, il y a moins d'une heure, les députés européens ont approuvé le nouvel exécutif de l'Union européenne. La Commission européenne retrouve sur place au Parlement de Strasbourg notre envoyé spécial Daniel Valo. Une confirmation, un feu vert obtenu, non sans difficulté, Daniel.
Oui, cette nouvelle Commission européenne est validée que par 370 voix. Jamais une Commission n'avait obtenu jusqu'à présent moins de 400 votes pour son investiture par le Parlement européen. Ce vote difficile témoigne des tractations très laborieuses qui ont eu lieu la semaine dernière et des tensions suscitées principalement par la décision d'Ursula von der Leyen d'accorder un poste de vice-président de la Commission européenne à l'Italien Raffaele Fitto, membre du parti de Giorgia Meloni, les Fratelli d'Italia, considéré comme un parti d'extrême droite par la gauche, mais courtisé par le Parti populaire européen, le PPE de Manfred Weber, qui forme le premier groupe au sein du Parlement européen et qui s'arroge aujourd'hui la part du lion dans cette nouvelle commission avec plus de la moitié des portefeuilles. Le PPE, accusé par la gauche de vouloir s'allier avec l'extrême droite sur certains textes de loi, notamment pour détricoter le pacte vert. Ursula von der Leyen, dans son discours ce matin avant le vote, a cependant assuré que la transition écologique ferait partie de ses priorités. Mais il est vrai que la présidente de la nouvelle commission a également beaucoup parlé de sécurité et de compétitivité. Notre liberté dépend plus que jamais de notre puissance économique, a-t-elle notamment déclaré. Ursula von der Leyen et sa nouvelle commission qui vont pouvoir s'atteler à la tâche avec ce vote. Donc, le nouveau collège de commissaires doit entrer en fonction officiellement ce 1er décembre.
Daniel Valo en direct de Strasbourg.
RFI, 21h, bientôt passé de 10 minutes à Busan. Florent, le temps presse au sommet mondial contre la pollution en plastique en Corée du Sud.
Oui, un traité qui doit être conclu d'ici dimanche entre les 178 pays présents, mais les progrès sont trop lents, a dit tout à l'heure le chef des négociations. On tourne en rond, dit aussi le représentant du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Les ONG font entendre leur voix, les militants. Et notre envoyé spécial à Busan a rencontré une jeune Indonésienne de 17 ans que beaucoup comparent là-bas à Greta Thunberg, la militante suédoise du climat.
Eshnina Azara Akilani, 17 ans, est venue tout droit d'Indonésie jusqu'à Busan pour alerter sur la situation de son pays et des autres en voie de développement. Son engagement pour l'écologie vient de sa propre expérience depuis l'enfance, comme elle nous le raconte.
Quand j'étais petite, j'étais très proche de la nature et j'aimais bien faire du bateau sur la rivière. La rivière est très polluée. Beaucoup d'usines rejettent leurs eaux usées dans la rivière. Les gens y jettent leurs déchets, leurs couches, leurs sacs plastiques. Ça me brise le cœur.
Dans une lettre rédigée aux délégations invitées à Busan, elle dénonce la pollution dont les pays en développement sont victimes à cause des pays riches.
Beaucoup de déchets plastiques des pays développés sont envoyés dans mon pays pour être recyclés. Mais je peux voir par moi-même que le recyclage dans mon pays est horrible. Le plastique est coupé en petits morceaux, ce qui fait des microplastiques qui polluent évidemment nos rivières. Il est aussi brûlé, ce qui contamine notre air et la santé des enfants en Indonésie. Donc je veux qu'ils arrêtent d'envoyer leurs déchets ici et qu'ils les recyclent chez eux.
Le gouvernement indonésien a annoncé le mois dernier la fin des importations de déchets plastiques en 2025. Célio Fioretti, Busan, RFI.
RFI 13h11 ici à Paris. L'actualité française dans ce journal est la fin des réquisitions ce matin au procès des viols de Mazan.
Entre 4 ans et 20 ans de prison réclamés contre les 51 accusés jugés pour avoir violé Gisèle Pellicot, droguée par son mari. Pour l'avocat général, le verdict portera un message d'espoir aux victimes des violences sexuelles. Et puis un autre procès fait la une aujourd'hui. C'est le procès des emplois présumés fictifs du parti de Marine Le Pen au Parlement européen avec la dernière plaidoirie de la défense cet après-midi. L'un des avocats de la présidente du RN va plaider la relaxe de sa cliente qui risque, outre une peine de prison, d'être inéligible.
Le dictionnaire de l'Académie française dans la ligne de mire de la Ligue des droits de l'homme.
La 9e édition vient d'être publiée et certaines définitions écrites par une assemblée d'hommes et de femmes qui ont 70 ans d'âge en moyenne. Certaines de ces définitions heurtent le président de la Ligue des droits de l'homme. Patrick Baudouin dénonce une vision archaïque et raciste du monde.
On lit un négrillon est un petit enfant noir. On vous dit que jaune se dit d'une personne ou d'une population caractérisée notamment par la pigmentation jaune ou cuivrée de la peau, par opposition à blanc et à noir, un homme de race jaune. Une personne négroïde présente certaines des caractéristiques morphologiques des populations noires, comme si il y avait des différenciations entre les êtres humains. Ça crée vraiment des débuts de discrimination dans les définitions mêmes. Aucune de ces définitions, telles que je viens de les rappeler, n'est signalée comme étant péjorative ou discriminante. Donc nous demandons vraiment avec force de revoir ces définitions, de supprimer des définitions semblables.
Patrick Baudouin, le président de la LDH, avec Olivier Sherman.
Et puis c'est le plus grand succès de l'histoire des comédies musicales.
Les Misérables arrivent à Paris. L'adaptation sur scène du livre de Victor Hugo a été vue par 130 millions de spectateurs partout dans le monde, mais finalement assez peu en France jusqu'ici. Voici donc une nouvelle production signée Ladislas Chola. C'est au Théâtre du Châtelet à Paris et c'est déjà quasiment complet, Carmen Lunzmann.
Condamné à 19 ans de bagne pour avoir volé un bout de pain, Jean Valjean et sa vie romanesque, racontée en comédie musicale, ont ému le monde entier et raflé 160 prix internationaux. Cette épopée des Misérables sur fond d'injustice sociale et d'émeutes révolutionnaires retrouve un nouveau souffle dans la mise en scène de Ladislas Chola. Il compte avant tout toucher la France, dernier bastion à avoir résisté au charme de ce spectacle flamboyant, mais aussi bouleversant d'humanité. C'est une poupée dans la vitrine. De la petite Cosette balayant sous la neige jusqu'aux barricades arrangées comme un clin d'œil au tableau La liberté guidant le peuple, tout s'enchaîne avec poésie, rendant grâce à Victor Hugo. Et le message résonne toujours aussi fort. Le compositeur Claude-Michel Schoenberg, 80 ans, au micro de Marjorie Bertin.
La chanson à la volonté du peuple, elle est chantée quand il y a des manifestations en Turquie, à Taïwan, à Hong Kong, en Chine, elle a été interdite. Et puis à RFI, vous connaissez un Javert, vous connaissez les Thénardier, vous connaissez une Éponine, une Fantine. Donc, vous voyez, il était formidable, Hugo. À la volonté du peuple, dont on n'est tout jamais.
Les Misérables, sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris, où il est 13h15. RFI Midi continue avec Nemo en piste.
Merci Florent Guignard, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, place au sport. Bonjour Christophe Dirémy.
Bonjour Nemo.
Christophe à la une, la suite de la cinquième journée de la Ligue des Champions au menu. Une grande affiche et deux clubs français priés de faire un peu mieux que le Paris Saint-Germain et que Brest hier.
Oui, point de convergence des aficionados du ballon rond ce soir. Anfield Road, où Liverpool, confortable leader de Première Ligue et troisième du classement européen provisoire, reçoit à 20h temps universel. Le Real Madrid, beaucoup moins confortable dans ce tableau continental, seulement 21e. Mais ça va toujours mieux que pour le PSG, en dessous de la ligne de flottaison, c'est-à-dire d'une place de barragiste, après avoir perdu hier soir 1-0 au Bayern Munich. Tandis que Brest tombait assez lourdement sur le terrain du FC Barcelone 3-0. Mais les Bretons, eux, gardent de bien meilleures chances de continuer leur parcours au printemps. L'optimisme est également de mise pour Monaco. Pour l'heure, la mieux classée des équipes françaises qui accueille le Benfica Lisbonne. Les joueurs de la Principauté, toujours invaincus, ne sont pas même loin d'ailleurs d'une qualification directe pour les huitièmes de finale. Ça passe par une victoire sur des Portugais battus par le Bayern au début du mois. Mais parfaitement capable de faire oublier cette défaite, prévient l'entraîneur monégasque à
18h. C'est une opposition intéressante avec deux équipes de haut niveau, surtout dans le domaine offensif. J'ai vu la prestation de Benfica à Munich et leur capacité à resserrer les rangs défensivement en jouant en bloc bas. Nous avons déjà glané 10 points en 4 matchs. Donc dans la compétition, ils sont plus sous pression que nous. Je ne veux pas dire que ce sera un match ouvert, mais c'est sûr qu'il y aura deux équipes qui aiment aller de l'avant avec un style de football léché. Nous avons hâte d'affronter le Benfica.
À 18h avant Monaco, Benfica, coup d'envoi 20h temps universel.
Et à la même heure, le LOSC, Lille, sera à Bologne.
Sur le terrain d'une équipe bolognaise dans la sauce, comme on dirait au Cameroun. 31e sur 36, avec son unique point gagné en 4 matchs, sachant que les Lillois ont tenu tête, voire battu le Real Madrid, l'Atletico ou encore la Juventus Turin. On peut se dire que ce voyage en Italie n'est pas le plus compliqué à aborder de cette phase. Mais pour le défenseur du LOSC, Thomas Meunier, méfiance quand même face à un adversaire fragile et désormais passé en mode survie.
Je dois bien avouer, l'année passée, j'ai suivi parce que ça m'intéressait de suivre le parcours un peu exceptionnel que Bologne a fait. Donc voilà, j'étais assez positivement étonné par le parcours la saison passée. C'était assez sensationnel. Voilà, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on joue en déplacement face à une équipe qui se cherche un petit peu, mais qui cherche aussi justement dans ce genre de situation. Le déclic et le match référence, ce qu'un match de Coupe d'Europe peut tout à fait amener. Je ne dirais pas qu'on part ultra favori, mais je pense qu'on a toutes nos chances, tout en restant très très méfiant.
Thomas Meunier, le défenseur belge de Lille, parmi les autres matchs de la soirée, le déplacement de la Juventus Turin chez les Anglais d'Aston Villa. Enfin, un coup d'œil sur le classement du Vendée Globe, alors que les plus rapides de la flotte se rapprochent du cap de Bonne-Espérance, au dernier pointage de 10h temps universel, c'est toujours Charlie Dalin qui mène la course avec 49 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Troisième, Sébastien Simon à presque 54 000.
Le journal des sports, Christophe Diremzian. Merci Christophe. Près de deux mois après le début des combats directs entre Israël et le Hezbollah, les deux camps ont donc officialisé cette nuit un cessez-le-feu. Il est entré en vigueur cette nuit. On continue d'en parler ce midi sur RFI avec notre invité Nadim Houri. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif du think tank Arab Reform Initiative et avocat spécialisé dans les droits humains. Un accord qui s'étale donc sur 60 jours et qui prévoit, entre autres, d'une part le retrait des troupes israéliennes implantées dans le sud du Liban, d'autre part le déploiement des forces régulières libanaises dans cette même zone, bastion du Hezbollah. Nadim Houri, quelles pourraient être les lignes rouges de cette entente ?
Non, déjà, il faut, je pense, souligner effectivement les tests de cette entente, c'est-à-dire... Deux prochaines étapes essentielles, c'est le déploiement de l'armée libanaise au sud du Litani, s'assurer qu'il n'y a plus une présence armée du Hezbollah dans cette région, et deuxièmement, parce que jusqu'au moment, elle maintient des troupes. Donc ça, c'est peut-être la première échéance à observer. La deuxième, ça va être le processus politique au Liban. Est-ce que les Libanais vont pouvoir se réunir pour élire un président dont la tâche va être quelque part de mener un vrai dialogue interne entre le Hezbollah et les autres factions libanaises.
Cet arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah peut-il, Nadi Mouri, laisser envisager d'autres pistes dans la région du Proche-Orient ? On sait que le Hamas a réagi après l'annonce, se disant lui aussi prêt à une trêve à Gaza.
C'est ce qu'on espère en tous les cas. Il faut effectivement, il y a un besoin humanitaire, moral et même politique qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Aujourd'hui, par rapport à Gaza, la dynamique dépend vraiment de la dynamique interne en Israël. Est-ce que Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite sont prêts à un cessez-le-feu à Gaza et sous quelles conditions ? Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à maintenant, on ne voit pas d'indication. Mais bien sûr, on espère en tous les cas qu'un retour au calme au sud du Liban et au nord d'Israël crée une dynamique au sein même de la société israélienne, qu'elle demande et qu'elle commence un processus de revenir de cette folie qu'on a vécue cette dernière année.
Benjamin Netanyahou, vous en parlez, le premier ministre israélien qui a d'ores et déjà prévenu qu'il répondrait avec force à toute violation. Est-ce que là aussi, ça peut être l'un des points de fragilité de cet accord ?
Oui, bien sûr. Bon, il faut imaginer dans cet accord, il n'y a pas de confiance entre les Israéliens et le Hezbollah. Israël a reçu des garanties des Américains dans une lettre annexe à l'accord lui permettant d'agir si elle trouve que l'armée libanaise, la FINUL, donc les troupes onusiennes, ainsi que les deux observateurs internationaux, notamment la France et les États-Unis, qui sont censés s'assurer de la bonne exécution de cet accord, ne prennent pas les mesures nécessaires. Donc je pense que les 60 prochains jours vont vraiment être un test de est-ce qu'on va pouvoir bâtir une certaine confiance. Je pense que les ingrédients sont là. Il va falloir que toutes les parties y travaillent. Mais je pense que c'est le seul moyen de revenir à un cessez-le-feu. J'espère qu'il sera pérenne sur cette frontière.
Vous avez évoqué le rôle des États-Unis et de la France. On le sait, qui ont participé aux négociations. Justement, je voulais revenir sur la France. Paris qui assure qu'elle respectera ses obligations internationales concernant les mandats d'arrêt émis par la CPI, notamment envers Benjamin Netanyahou, mais qui rappelle dans le même temps qu'un État ne peut être tenu d'agir avec ses obligations en vertu du droit international concernant les immunités des États non partis à la CPI. C'est le cas d'Israël. C'est donc une position plutôt contradictoire. Cette option, selon vous, Nadi Mouri, a-t-elle pu faire partie des négociations avec Israël ? Et qu'est-ce que l'avocat spécialisé dans les droits humains que vous êtes en pense ?
Malheureusement, oui, je le crains. En tous les cas, c'est ce que la presse israélienne est en train de reporter ce matin, parce qu'on sait qu'Israël s'était opposé à ce que la France fasse partie des pays garants de cet accord de cessez-le-feu. Et ce qui a été écrit aujourd'hui dans la presse israélienne, c'est qu'une des conditions israéliennes pour accepter que la France en fasse partie, c'est que la France fasse la déclaration dont on a entendu ce matin. Pour moi, le droit international n'est pas négociable. Les obligations de tous les pays signataires du traité de Rome, dont la France, sont claires. Il y a un mandat d'arrêt issu par la Cour pénale internationale. Tous les pays membres, donc, dont la France, sont tenus de le respecter. Mais en tous les cas, on va prendre ça au pas à pas. On va attendre de voir des réactions plus claires, avec des éléments plus clairs. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer à négocier le droit international, à faire des exceptions pour ci ou pour ça.
Nadi Mouri, vous avez évoqué également le plan plus politique au Liban. De nombreuses figures ont appelé, après l'annonce de ce cessez-le-feu, à l'élection d'un chef de l'État. C'est le cas de Najib Miati, le Premier ministre, mais aussi du président du Parlement. Est-ce que c'est la prochaine étape nécessaire pour le pays ?
Oui, il faut savoir. Donc, depuis deux ans, le Liban n'a pas de président de la République. Il y a un vide constitutionnel très important, en partie à cause d'un désaccord profond entre le Hezbollah et les autres factions libanaises, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un candidat. Je pense aujourd'hui, le pays sort de cette guerre encore plus divisé. Je pense toutes les factions politiques sont conscientes qu'il va falloir mener un vrai dialogue national. qui va pouvoir le faire? Je pense que ça va être la première mission d'un nouveau président. Donc j'espère qu'il y a suffisamment de volonté politique chez les partis traditionnels libanais de se mettre d'accord à un président qui puisse garantir la bonne tenue de ces négociations et la société libanaise va devoir répondre à des questions essentielles. Quelle place pour les combattants du Hezbollah, qui va mener la question de la reconstruction, avec quel argent, donc il y a beaucoup de grands dossiers qui attendent les Libanais, notamment plus du quart de la population a été déplacée, leurs maisons ont été il faut une vraie légitimité politique pour mener ces grands chantiers, et cette légitimité politique commence en partie avec l'élection d'un nouveau président. C'est une étape essentielle, elle ne sera pas suffisante. Il faut après entamer un vrai dialogue national et revenir à la reconstruction d'un État, et pas simplement des tractations ou des transactions momentanées entre des leaders qu'on connaît assez corrompus.
Merci Nadim Houri. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du think tank Arab Reform Initiative et avocat spécialisé dans les droits humains. Vous étiez l'invité d'RFI Midi. Un entretien à retrouver évidemment sur l'ensemble de nos plateformes. À 13h26 ici à Paris. Troisième et dernier volet ce mercredi de notre série consacrée à 19 mois de guerre au Soudan entre paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti et armée régulière du général Al-Burhan. Depuis le début des combats, 13 millions de personnes ont dû fuir leur domicile, 11 en interne, 2 autres millions au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous sommes à Port-Soudan, naturellement reconverti en capitale du pays parce qu'épargné pour le moment par les combats. De 400 000 habitants initialement, la population a doublé et Elliot Brachet, pour ce dernier épisode, s'est rendu dans une école qui abrite des artistes déracinés et qui, à travers leur passion, raconte ces 19 mois de guerre. Reportage.
Dans la cour de l'école, Amin Akram improvise une leçon d'anglais. Il y a une semaine, ce professeur de musique a fui Khartoum, laissant derrière lui ses instruments. Il habitait dans le quartier de Shambat, contrôlé par les paramilitaires, aujourd'hui pilonné par l'armée régulière.
Les maladies se propageaient. La malaria, le typhus, la dengue. Tout cela à cause du manque de nourriture. En plus des combats, c'était invivable. J'habitais à côté du cimetière. Ils enterraient 3 cadavres par jour. Nous étions à bout de force. Après un an et demi d'enfer, je voulais revoir la vie.
Dans des salles de classe reconverties en dortoirs, une soixantaine d'artistes exilés partagent des lits superposés. Ils sont comédiens, cinéastes, danseurs. Comme Muhaira Fathi, une décoratrice de 27 ans, beaucoup ont été déplacés plusieurs fois par les combats.
Mon quartier à Khartoum a été rasé par les bombardements aériens. Alors je suis allée me réfugier dans la Gezira. J'y suis restée 2 mois, puis les forces de soutien rapide ont attaqué. Là, c'était encore pire. Des cas de viol et de violence contre les femmes. Au final, c'est une guerre contre les civils. Que ce soit par les avions de l'armée, les obus ou les pillages des paramilitaires, c'est le citoyen qui perd tout. Cette guerre est absurde. Elle doit s'arrêter.
Chaque semaine, entre 2 coupures d'électricité, ces artistes organisent des projections de cinéma, des concerts et jouent du théâtre dans les camps de déplacés. Pour le metteur en scène, Rabia Youssef, l'art est la seule arme qu'il leur reste.
Cette guerre a des racines historiques, politiques, économiques. Mais la cause grave et la plus négligée, c'est le manque de culture. Nous avons beaucoup de tribus et de langues différentes. Mais les Soudanais ne se connaissent pas entre eux. Et la guerre amène toujours avec elle des discours de haine. Alors, nous les artistes, devons jouer notre rôle. Notre art est une arme qui combat la propagande, les mensonges, une arme qui agit sur les consciences. C'est une forme de résistance. Objectivement, il est possible d'arrêter cette guerre. La seule solution, c'est la négociation. Au Soudan, nous avons connu de nombreuses guerres. Aucune ne s'est terminée par la voie des armes.
Un reportage signé Elliot Brachet. L'ensemble de ces reportages sont à retrouver sur notre site RFI.fr.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent avec Vincent Louchez du Média en ligne Reporter, Véronique Robérode de France Culture et mes collègues de RFI, nous reviendrons entre autres sur la COP29 et les difficiles conditions de travail des journalistes en Azerbaïdjan.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Comment adapter les villes face aux risques d'inondation? Qu'est-ce que le concept de ville-éponge en Chine? Au-delà de l'urbanisme, comment mieux prévenir, alerter et secourir?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU